Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François-Olivier Gisbert.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'avoir accepté d'être là ce matin parce qu'on a franchement besoin de comprendre un tout petit peu comment on en arrive finalement à revenir presque à la case départ. François-Olivier Gisbert, un mot quand même pour vous présenter, pour ceux qui ne le seraient pas, mais il y en a peu à mon avis. Vous êtes éditorialiste au Point, vous êtes écrivain, éditorialiste bien sûr. Et tiens, je voudrais citer d'ailleurs votre dernier livre parce qu'on a l'impression que cette histoire, elle se poursuit. Histoire intime de la 5e République. Tragédie française, c'est aux éditions Gallimard, cette tragédie française qui peut-être se poursuit. Vous me disiez, oui, on est parti il y a 2 semaines, on est arrivé finalement au bout d'un chemin, le gouvernement devrait être finement annoncé ce week-end, mais enfin, on en a déjà les grandes lignes. En gros, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aura beaucoup de macronistes, un peu de droite classique, une petite poudre,
un tout petit peu de droite classique,
un petit peu de droite classique, une caution peut-être de gauche avec Didier Migaud, et puis, tout ça pour ça,
un seul horizon, c'est-à-dire le parti d'Édouard Philippe, visiblement qui est très mal vu, hein.
Alors comment on en arrive
seul,
là,
un seul, c'est, écoutez, moi, si vous parliez de cette espèce d'énorme boulot que j'ai fait sur l'histoire de l'histoire intime de la 5e République. Et c'est vrai que je me dis qu'on est un peu en 1958. Pourquoi ? Il y a plein d'éléments. Il y a d'abord la situation financière, l'endettement. La France que va découvrir De Gaulle en 1958, c'est un endettement considérable. C'est une inflation, 15%, on n'en est pas là du tout. Mais économiquement, on voit très bien que la France est au bout du rouleau. Hein. Je ne parle pas d'industrie qui se casse la gueule, la désindustrialisation. 10% du PIB, c'est-à-dire 2 fois moins que l'Allemagne, le taux le plus bas d'Europe, etc. Enfin, vous voyez, la France
est à bout de souffle,
c'est un affaissement économique. Et autour de ça, enfin, faut rajouter évidemment l'affaissement de l'autorité, 25 000. Refus d'obtempérer, et avec beaucoup de gens qui pensent que le refus d'obtempérer est un droit, vous voyez, c'est le seul pays au monde, c'est-à-dire dans ces cas-là, il faut supprimer la police, et la police peut arrêter personne. Bon, et puis, je peux rajouter comme ça plein de choses. Un type comme ça, qui fait un appel à l'intifada en plein Paris, place de la Nation, devant des députés et des filles, appel à l'émeute, à l'intifada, enfin pas l'émeute,
au soulèvement. Mais François-Olivier Gisbert, je vous interroge sur le gouvernement et vous rappelez, c'est-à-dire pour vous, c'est ça.
Non, je parle de la situation.
C'est ça qui fait qu'on en arrive là.
Non, justement, c'est le contraire. C'est-à-dire, face à une situation comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'il a fait De Gaulle en 1958? Il a refait la France en
je dirais,
la France n'attendait que ça, d'ailleurs, en plus. Parce que la France n'attend que ça, en fait. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est foutu. Je pense que ça va très très mal. Je pense que la situation est épouvantable. Et en même temps, je pense qu'il suffit de rien parce qu'il y a de l'énergie dans ce pays. Il y a plein d'énergie, il y a plein de gens qui veulent. Et c'est ce qui s'est passé en 1958. C'est-à-dire, il a pris 4-5 mesures et c'est reparti.
Mais est-ce que cette fois-ci, l'étincelle est là?
Non. Pourquoi? Parce que ce qu'a fait De Gaulle en 1958, c'est qu'il y avait tout le monde. Alors, je reconnais que là, pour Barnier, l'équation était très compliquée. Parce que personne ne veut venir. Hein, en
tout le monde lui a dit non.
C'était à lui de convaincre. Bon, mais dans ces cas-là, peut-être faut prendre son avion pour demander. Le rêve, si vous voulez, c'était un gouvernement avec tout le monde.
Tout le monde, ça veut dire de
la gauche à la droite. Alors évidemment, la gauche, pas LFI, tout ça, ils n'auraient jamais voulu, mais peut-être Cazeneuve. Cazeneuve, Wauquiez, tout ça, ça peut vivre ensemble. Le temps du redressement.
Mais ils ont tous dit non. Ce matin, je recevais un des membres de la commission des finances, socialiste, Philippe Brun, qui disait, j'ai été au rendez-vous, mais j'ai dit non.
Oui, bien sûr. Il y a aussi quelques tout à fait remarquables. Stéphane Le Foll,
le maire du Mans, qui a dit non.
Puis il préférait sans doute rester au Mans. Et bon, mais ça, c'est sûr, c'est compliqué. Mais il fallait essayer de convaincre.
Pour vous, Cazeneuve et Wauquiez auraient pu vivre ensemble le temps de quoi?
Le temps de remettre les choses. Attendez, vous voyez très bien. Je parle d'affaissement, mais vous savez très bien que la France est devenue le mouton noir de l'Europe. Regardez comment même cette Ursula von der Leyen traite la France avec changez votre commissaire, ça va pas. Et puis voilà.
Parce qu'effectivement, au milieu de tout ça, il y a eu la démission forcée de Thierry Breton.
Quand l'émir du Qatar, qui est un des principaux créanciers, parce que l'endettement, c'est pas pas juste une blague. Quand on est endetté comme la France et qu'on est endetté avec la Chine, avec le Qatar, eh ben quand l'émir du Qatar vient en France, tout le monde rampe, tout le monde est à genoux. On est comme ça parce que puis on espère, puis s'il vous plaît, si vous pouvez investir encore en France. Non, il fallait renverser la table.
La table n'a pas été renversée. Avant de voir ce qu'il faudrait faire. Je voudrais quand même vous interroger sur ce casting. On a Michel Barnier qui est donc Premier ministre. Voilà, espérait avoir des postes essentiels donnés à effectivement des membres de la famille LR. Alors maintenant on parle de droite républicaine, ils ont tout changé de nom. Bref, il y aura effectivement quelques personnes issues de LR, mais très peu comme vous le disiez. Il y a beaucoup en fait de députés macronistes qui vont faire leur entrée. Est-ce que ça veut dire que c'est un gouvernement Macron et non pas un gouvernement Barnier?
Je crois que Barnier, faut pas le sous-estimer, hein. C'est-à-dire bon,
on l'a vu au moment de la passation de pouvoir,
ce côté empesé, etc. Vous voyez, emprunté, mais attention, il sait où il va, il a du caractère, c'est très important. Donc, faut pas le sous-estimer. Cela étant, c'est vrai, c'est quand c'est pas un problème de rapport de force. Je pense que c'est aussi la classe politique. Je lui impute pas tout. S'il a pas fait ce gouvernement, c'est parce que les gens veulent pas. Effectivement, les gens n'ont pas confiance. Je pense que il y a certainement aussi le problème Macron derrière. Macron qui est derrière, partout. Voyez, ça inquiète un certain nombre de personnalités. Par exemple, je pense que si, bon, Cazeneuve, ça s'est pas fait parce que Macron ne peut pas le piffer, en fait. C'est ça, au départ. Je pense
que certains disent, mais, le nouveau Front Populaire a perdu une occasion. Mais au fond, c'est pas le nouveau Front Populaire qui a refusé Cazeneuve. C'est Emmanuel Macron.
C'est Emmanuel Macron, je pense absolument, parce qu'il y avait une petite carte à jouer. Mais enfin, est-ce que c'était la meilleure solution? Je sais pas, parce que de toute façon, le résultat était complètement illisible, parce que vous voyez bien le problème qui se pose quand même, parce que Macron n'est pas responsable de tout. Et il fait cette dissolution stupide, et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a pas de résultat. Quand vous regardez qui a gagné, moi je ne sais pas. Le Rassemblement National, évidemment, a gagné, c'est le premier parti, etc. Le Nouveau Front Populaire, il a plus de députés, mais enfin, c'est au terme d'une espèce d'accord amoral épouvantable, abject d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à ce qu'on faisait sous la 4e République, qui s'appelait les apparentements, ça scandalisait tout le monde, mais là, aujourd'hui, ça scandalise plus personne. C'est-à-dire, on fait des accords de désistement, mais il est hors de question qu'on gouverne ensemble. Hein. Donc, les macronistes ont voté pour LFI, les LFistes ont voté pour les macronistes, mais on ne va pas gouverner ensemble. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas un front républicain. C'est une espèce de magouille, voilà. Donc on
c'est
a
pas un front
après,
républicain, c'est une magouille.
C'est une grosse magouille. Et après, d'ailleurs, regardez, il y a 62%, j'ai vu des électeurs macronistes qui avaient voté LFI, qui sont prêts à revoir leur vote, enfin qui trouvent que voilà, ils sont
fait avoir. Tout le monde a le sentiment de s'être fait
bien
avoir.
Sûr.
Ceux qui ont effectivement voté pour l'arc républicain, ceux qui ont voté contre d'autres, et puis quand même au final.
Vous avez raison.
Et ce gouvernement qui est quand même issu du parti qui avait fait moins de 5% à la présidentielle.
Absolument, tout à fait.
Comment est-ce possible qu'on en arrive à cette équation-là, c'est-à-dire que le plus petit gagne?
Ouais, c'est différent. Je pense que à gauche, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Hein, c'est-à-dire que il n'y avait que Cazeneuve. Je pense que Macron n'en avait pas envie.
Lucie Castet.
Oh bah c'est une blague. Enfin, je veux dire, vous voyez bien, c'est une LFiste.
Mais pourquoi il l'a pas tenté?
Et les copines.
Mais pourquoi il l'a pas tenté?
Non, il aurait pu le tenter. Je pense que pour montrer que ça marchait pas, puisque de toute façon, il y avait la motion de censure immédiatement. Enfin, de toute façon, elle restait quelques jours, quoi. Ça ne pouvait pas marcher. Et puis, de toute façon, elle avait pas les capacités. Enfin, vous voyez très bien, il y a quelque chose qui collait pas. Pourquoi il l'a pas fait? Je pense, moi, il a eu peur de la bourrasque financière. C'est-à-dire, comme le programme du Nouveau Front Populaire était assez dément, il faut bien le dire. La France est au bout du rouleau financièrement. Et plus de 100 milliards de dépenses annuelles. Non, mais c'était un truc de fou. Avec, on va trouver l'argent en augmentant les impôts. On a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde.
Michel Barnier lui-même a l'air de trouver qu'il va falloir quand même augmenter les impôts.
Ah, mais certainement. Ponctuellement, certainement. Il faudrait peut-être aussi penser à baisser les dépenses publiques, 57% de dépenses publiques par rapport au PIB. Nous avons le record mondial. Nous avons le record mondial. Il faut peut-être penser à ça aussi. Hein. C'est pas juste les impôts, parce que les.
Mais est-ce qu'il pourra faire tout ça? C'est-à-dire, est-ce que ce gouvernement, où on le sent bien, c'était pas forcément ses premiers choix, les membres qui vont rejoindre ce gouvernement et qui sont issus principalement quand même de la Macronie, sans les gros, hein, parce que il y a Gérald Darmanin ou Gabriel Attal qui eux sont sur les côtés. Ne sont plus dans ce gouvernement et qui vont être
ils ont leurs hommes ou leurs femmes à eux, c'est clair.
Est-ce que ce gouvernement va pouvoir tenir?
Si vous voulez, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ceux, comme j'aime ce pays, je me dis, faut que ça marche. Il faut que ça marche.
Mais au fond, d'ailleurs, en même temps, ça pourrait vous plaire, François-Olivier Gisbert. Un gouvernement avec de la droite, des macronistes.
Non, parce que je rêvais d'un gouvernement d'union nationale.
Vous rêviez d'un gouvernement.
Je suis vraiment.
Dans lequel il y aurait des socialistes.
58, voilà, c'est ça. Mais quelques personnalités. Et puis, on va essayer de remettre tout à plat. Vous savez, la France n'est pas foutue. De Gaulle, il fait ce plan Pinet-Ruet. Vous vous souvenez, cette espèce de truc absolument dingue qui était un plan. On aurait dit aujourd'hui austérité. Tous les imbéciles, les soi-disant économistes atterrants marxistes.
Ça veut dire que la situation austérité. Des finances pour
non,
vous.
Non, il a fait. Mais bien sûr, simplement, il faut arrêter avec les déficits, il faut arrêter avec l'endettement, il faut arrêter avec tout ça et repartir à zéro. Et ça, c'est un travail compliqué. Bon, et qu'est-ce que ça fait quand vous faites ça? Ce qu'a fait De Gaulle. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les 10 années qu'on suivit, hein. On a eu des taux de croissance de 5-6%. 5-6%, ce sont des taux de croissance à la chinoise. Parce que, au départ, en 1958, fin 1958, il a fait ce plan de rigueur, ou d'assainissement, ou je sais pas comment on va appeler ça.
Est-ce que Michel Barnier pourrait être ce De Gaulle de 58?
Vous savez, l'homme providentiel. Oui, il a de la volonté. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui a de la volonté. Il a pas pris quelqu'un qui. Je veux pas citer des noms, mais vous savez, il adore les ectoplasmes, en fait.
Macron,
c'est méchant ce que je dis, mais enfin, c'est vrai, il prend des gens, qui peut piétiner, qui.
Oui, mais vous trouvez vraiment qu'Edouard Philippe.
De tapis sur lesquels il peut s'essuyer les pieds.
Monsieur Castex, Madame Borne, c'était des paillassons?
Un peu, mais ils se révoltent parfois. Regardez, Edouard Philippe s'est révolté. Puis c'est comme ça la vie, c'est la vie. Mais si vous voulez, le problème. Donc, il a une personnalité forte,
oui, Michel Barnier. Il a la volonté.
Le problème, c'est qu'il faut l'équipe.
Il n'a rien à perdre.
Donc, le problème, c'est que, d'abord, si vous voulez, moi, je pense que pour faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire un vrai plan de rigueur, pour faire repartir l'économie française, il faut pouvoir faire de la pédagogie, il faut pouvoir être entendu, et je pense que là, il y aura un problème forcément avec Macron qui essaie de reprendre la main. Mais Macron, si vous voulez, le problème, c'est qu'il a perdu les législatives de 2022, il a gagné la présidentielle, dans la foulée, il a perdu les législatives, il n'a pas voulu le reconnaître, donc il a fait comme si... Et là, il a perdu aussi, parce que tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu, hein, parce que l'idée que c'est le perdant qui gouverne aujourd'hui, elle est fausse.
Mais
dans ces dernières élections législatives, tout le monde a perdu.
François-Olivier Gisbert, j'ose à peine dire les noms, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qu'on connaît pour les avoir reçus de ci, de là, mais qui n'étaient pas forcément en première ligne de la Macronie, mais qui viennent tous de la Macronie. Astrid Panossian, Jean-Noël Barrault,
Geneviève
Darius,
très demandé par les syndicats. C'est quelqu'un de tout à fait de qualité. Astrid Panossian ça fait longtemps qu'on en parle, je pense qu'elle est une femme de qualité.
Elle serait ministre du Travail. Jean-Noël Barrault, qui était aux Affaires européennes, serait le ministre des Affaires étrangères. Geneviève Darrieussecq à la Santé. Antoine Armand au sein de Bercy. On ne sait pas encore si celui qui était à ce micro il y a quelques jours, c'est-à-dire François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, acceptera ou non. Visiblement, il réserve sa réponse, mais il pourrait prendre la tête de Bercy. Et puis, il y en a quelques-uns qui viennent des LR. Bruno Retailleau à l'intérieur, qui aura sans doute visiblement un périmètre large et qui sera sans doute l'un des hommes puissants de ce gouvernement. Annie Genevard, qui était numéro 2 des LR et qui serait ministre de l'Agriculture. Et puis pour le reste, effectivement, Othmane Nasrou, qui lui aussi vient des LR, qui serait à la laïcité et aux discriminations. Pour l'enseignement, c'est aussi une macroniste. c'est quand même, c'est vraiment un vivier de jeunes macronistes d'ailleurs, députés, qui font leur entrée dans ce gouvernement.
Ouais, mais ça, c'est pas ça qui me choque. Parce qu'il y a des gens de qualité là-dedans, dans les noms que vous citez, il y a des gens formidables.
Mais ce que je veux dire, c'est pas forcément des gens que Michel Barnier lui-même spontanément a été chercher.
Certainement, certainement. Mais moi, ce qui me gêne, simplement, c'est une chose très simple. Je rêvais d'Union nationale. C'est-à-dire, bon, l'heure est grave. Bon, peut-être que ce sera pour la prochaine fois. Vous savez, on descend une pente, là. On le sait très bien. On le voit. Regardez comment la France est traitée, je le répète, ça, on le sent, on voit très bien. C'est notre voix ne compte plus parce que on est devenu un peu un mouton noir de l'Europe. Et bon, les agences de notation qui vont faire la danse du scalp, les marchés financiers, on va voir peut-être à un moment donné, peut-être pas maintenant, peut-être dans un an, mais enfin, bon, on est fragile.
Qui nous tient? Est-ce que ce sont les agences de notation? Est-ce que ce sont les investisseurs étrangers?
Mais c'est tout le monde, y compris nos créanciers. Parce que quand on dit, alors je sais, il y a une espèce de plaisanterie, mais c'est pas grave, la dette, on efface. Mais non, on rediscute, on négocie les dettes. Mais à un moment donné, il faut payer, surtout quand c'est l'argent qu'on doit au Qatar, qui possède quand même quelques entreprises en France, enfin, qui a des actions un peu partout.
Et qui ne se contenterait pas qu'on ne paye pas.
Non, bien sûr.
Ou alors on lui en dit
et la Chine non plus, et la Chine non plus, vous savez, avec toutes ces bases navales dans le monde, enfin, on peut pas maltraiter ces gens-là.
Ce gouvernement, hein, pour faire quoi? Alors, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais Matignon a listé les priorités dans un document de travail que je vous cite. L'objectif, c'est de travailler sur le niveau de vie, les services publics, la sécurité, l'immigration, l'intégration, les entreprises et les agriculteurs, les finances publiques et la dette écologique.
Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire, il y a des réalités, c'est très compliqué, hein, de dire les choses aujourd'hui, je comprends très bien, mais il faut réduire évidemment les dépenses publiques. 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, c'est énorme si on regarde les chiffres. Et on peut baisser, le Danemark l'a fait, l'Allemagne l'a fait encore récemment. C'est-à-dire, les dépenses publiques, il faut les baisser. Nous avons
d'autres l'ont fait, on
peut le faire. Le problème des retraites, c'est un vrai problème. Vous savez très bien que les agences de notation regardent ça. En plus, c'est dément. Une grande partie de l'endettement français,
mais est-ce qu'on
c'est
peut
parce que c'est l'État qui paye les retraites.
La réforme des retraites sur pause.
Bah, il faut, oui, parce que ça excite tout le monde, mais vous savez, à un moment donné, il faudra le faire. Et ça, il faut commencer à faire de la pédagogie. Vous savez, il a beaucoup parlé, Macron, mais il fait pas de pédagogie. Il fait pas de pédagogie parce que vous savez, je reviens encore sur De Gaulle. De Gaulle, il disait toujours, gouverner, c'est être dur. Et gouverner, il disait aussi, on sait ça dans toutes les petites entreprises, y compris les petites PME, c'est dire non, 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 tout le temps. Bon, lui dit oui tout le temps. Oui tout le temps, de temps en temps, il lui arrive de dire non d'ailleurs, et on est très content, mais en général, il dit oui. Et c'est pas comme ça qu'on gouverne.
Et malgré le fait de dire oui, le grand paradoxe, c'est qu'il soit, dans ce cas, détesté. François-Olivier Gisbert, je voudrais quand même qu'on parle d'un personnage qui finalement lui-même ne parle pas, ou très peu, qui est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui, semble-t-il, est quand même là, tapis dans l'ombre, a depuis longtemps cette ambition présidentielle, qui a refusé d'aller à Bercy. Il disait visiblement que c'était l'intérieur ou rien. À quoi jouent des personnages comme Laurent Wauquiez, comme Gérald Darmanin, comme Gabriel Attal, qui sont quand même des ambitieux, qui ne seront pas au sein de l'appareil?
La présidentielle, de toute façon, elle a commencé, c'est clair. Édouard Philippe s'est lancé récemment, Gabriel Attal aussi, ça c'était dans le point d'ailleurs, les deux. Et puis, Laurent Wauquiez, on le sait depuis très longtemps, il est candidat. Donc, ça a commencé. Après, la présidentielle, elle va pas commencer quand même tout de suite aujourd'hui, même si on
donc
voit bien.
Donc, il va y avoir un temps d'action.
Oui, et si vous voulez, là, de toute façon, je pense que après, si vous voulez, ce qui s'est passé au législatif, qui est assez sidérant en fait, parce que il y a pas de vainqueur. Je pense qu'il y avait, il y a la possibilité de faire des choses. Et ce qui va se passer, comme si le gouvernement ne fait rien. Ce qui est tout à fait possible. Si le gouvernement ne fait rien, la présidentielle va commencer. C'est-à-dire, on va faire de la politique politicienne. Mais c'est pas ça dont la France a besoin.
Parce que la France a horreur du vide. Que donc, s'il ne se passe rien, chacun fera sa petite danse.
Exactement. Mais c'est ça l'histoire. Et c'est qu'en fait, on a besoin de réformes de fond. C'est-à-dire de quelqu'un qui s'attaque. Quand on parle de Villeroy de Galhau, ce serait très bien. Parce que et quelqu'un qui, justement, s'attaque aux dépenses publiques. C'est-à-dire, comment. Mais qui commence à faire de la pédagogie, vous savez, c'est important. La pédagogie, il y a des des hommes politiques, des personnalités qui ont fait de la pédagogie dans le passé, vous vous souvenez, de Barre, avec des plans de rigueur effrayants, et qui réussissaient à convaincre les Français, qui étaient professeurs.
Ouais, mais
Michel Rocard, on ne comprenait pas toujours tout ce qu'il disait, mais Michel Rocard aussi, c'était un pédagogue. Il y a eu des pédagogues en politique.
Donc, et
je crois que c'est un moment où il faut expliquer, voilà. Attention, la réforme des retraites, on est obligé de faire des réformes. Regardez ce qui se passe ailleurs. Il faut remettre la France au travail aussi. Nous sommes le pays du monde qui travaille le moins. Regardez sur les pays de l'OCDE, regardez l'Union Européenne. On est le pays en heure annuelle travaillée. On est le pays qui travaille le moins. Juste, il y a la Finlande aussi, on est avec la Finlande. Mais la Finlande, ça se comprend parce que.
La Finlande a d'autres sous. Et d'autres sources de.
Ils ont du pétrole, et puis de toute façon, c'est difficile de sortir de chez soi. Tout est enneigé.
Merci, François-Olivier Gisbert, éditorialiste au Point, écrivain. Je redonne le titre de votre dernier livre, Histoire intime de la Ve République, tragédie française. Et vous le dites ce matin, c'est pas foutu.
Non, mais la France n'est pas foutue, la France n'est pas finie. Non, mais il faut arrêter avec ces bêtises.